Sud Radio, c'est ça la France, en direct du Salon de l'Agriculture, Nathalie Schrengirma.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, votre émission consacrée au savoir-faire français. Effectivement, nous sommes en direct depuis le Salon de l'Agriculture. Notre studio de Sud Radio est installé sur le stand de l'IRCALIM, l'Institut Régional de la Qualité Alimentaire d'Occitanie. Alors, on a envie de vous faire vivre ce salon comme si vous y étiez. Autour de nous, je peux vous dire que c'est l'effervescence et c'est un bonheur d'être ici. Les Français sont venus nombreux assister à la grande manifestation agricole européenne. Alors, on y croise bien évidemment les animaux, on déguste le meilleur des produits régionaux, mais il y a également les pôles d'innovation qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Et en matière de savoir-faire, de fabriquer en France, je peux vous dire qu'on a eu l'embarras du choix car c'est un univers qui est en perpétuelle mutation. Donc je vous propose une heure d'émission entièrement dédiée à l'innovation car il faut le rappeler, nos agriculteurs sont à la pointe en matière de nouvelles technologies. Donc je vais vous présenter des start-up, des jeunes entrepreneurs, souvent fils ou petits-fils d'agriculteurs ou encore des instituts de recherche qui œuvrent ensemble pour améliorer le quotidien de ces agriculteurs. Et on va commencer cette émission avec vous, Roland Lenin. Bonjour.
Bonjour.
À vous, on peut dire que l'univers de la robotique n'a aucun secret pour vous. Vous êtes directeur de recherche au centre IRSTEA de Clermont-Ferrand, donc l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture. Vous êtes également expert international en robotique agricole. Il me regarde, oui. Tout est bon pour l'instant ?
Oui, tout va bien.
Rappelez-nous en quelques mots le rôle de cet institut de recherche, l'IRSTEA.
Alors, on est un établissement public de recherche et on a vocation à faire des recherches pour améliorer le respect de l'environnement, réduire l'impact environnemental et pour améliorer l'agriculture.
Alors, chaque année, vous venez sur le salon de l'agriculture, vous venez nous présenter votre dernier bébé. Et là, en l'occurrence, il s'agit du robot Adapt 2E qui est destiné au travail dans les vignes. Expliquez-nous à quoi il ressemble, ce robot, pour que nos auditeurs de Sud Radio puissent bien le visualiser. Dressez-nous un portrait de ce robot.
Alors, c'est un robot qui pèse 500 kg, il fait 2 mètres de long et 70 cm de large pour pouvoir passer dans tout type de vignes, y compris les vignes étroites. C'est un robot qui est complètement électrique, il a 4 roues motrices et directrices avec des moteurs roues. Et il peut embarquer différents types d'outils. Et en fait, c'est une plateforme de recherche et développement, donc c'est vraiment pour faire de la recherche fondamentale. Et il y a un frère jumeau qui permet de faire du travail collaboratif et d'associer les deux robots pour pouvoir passer de chaque côté d'une rangée de vignes.
Alors justement, qu'est-ce qu'il est capable de faire concrètement ?
Alors justement, l'objet du projet, c'était de pouvoir avoir un robot capable de faire différentes tâches dans différents milieux, donc qui est capable de suivre des structures par laser, de faire du suivi de trajectoire par GPS, de faire des manœuvres grâce à des roues directrices indépendantes, de pouvoir évoluer aussi dans des bâtiments par intermédiaire d'un laser ou de capteurs innovants.
Donc il est complètement autonome. Il fait son chemin tout seul, il rentre tranquillement, il repart. Enfin, il n'a pas besoin de quelqu'un pour le piloter.
Non, absolument. L'idée, c'est d'avoir une planification de mission avant, de dire il faut aller dans telle parcelle pour faire tel travail. Et là, l'objet du projet, c'était de savoir quel type de capteur on utilisait pour aller jusque dans la parcelle, après comment on faisait pour être à l'intérieur, puis de choisir le nombre de robots et le type d'association pour pouvoir effectuer ce travail de façon complètement autonome.
Alors, je le disais à l'instant, il est destiné au travail dans les vignes, hein, le fameux robot Adapt 2E. Qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Quelle est sa plus-value pour le viticulteur ?
Alors, du coup, il n'est pas capable de faire des choses que dans les vignes. Hein. L'idée est beaucoup plus générale que ça, mais c'est le domaine d'application privilégié. Alors, l'idée pour l'agriculteur, après, c'est de pouvoir réaliser des tâches à sa place qui peuvent être dangereuses ou très pénibles. Donc, par exemple, pour la pulvérisation, l'idée, c'est d'éloigner le plus possible l'agriculteur des zones dangereuses, mais aussi de limiter l'utilisation de pesticides ou de produits chimiques.
Donc, c'est la pulvérisation de précision, en quelque sorte.
Voilà, à partir du moment où on a une plateforme qui a des capteurs pour pouvoir se déplacer dans une parcelle, ça veut dire aussi qu'on peut utiliser ces capteurs pour voir le couvert végétal et adapter la pulvérisation en fonction de ça, pour vraiment pulvériser sur les plantes.
Ouais. Il faut rappeler qu'une personne qui va travailler toute une vie sur une exploitation et qui est exposée notamment à des produits issus de l'industrie chimique, c'est vrai qu'il permet donc de traiter sans qu'il y ait la présence de l'agriculteur ou du viticulteur dans les champs.
Voilà, et puis après, pour aller au-delà, si on part sur des produits alternatifs à l'utilisation de produits chimiques, donc des herbages mécaniques, ou traitements mécaniques, ou traitements par des produits de biocontrôle, c'est-à-dire qu'il faudra passer beaucoup plus souvent, et donc là, l'utilisation d'un robot se justifie complètement, parce qu'il est inenvisageable d'utiliser plein de temps pour pouvoir passer dans les champs.
Donc c'est le tout dernier, un robot qui a été développé par l'IRSTEA, donc chaque année, vous êtes ici, là, au Salon de l'Agriculture. Quand est-ce qu'il sera commercialisé ?
Alors, ce robot-là, c'est vraiment une plateforme de recherche pour pouvoir mettre en avant le côté reconfiguration, l'utilisation de différents robots, l'association de différents robots. Donc lui, il n'a pas vocation à être vendu tout de suite, mais par contre, il y a des retombées à beaucoup plus court terme sur d'autres types de projets. Donc notamment il y a le projet Puma Gris.
Alors lui on peut pas le louper au salon, hein. Il fait 2 tonnes 6.
Il fait 2 tonnes 6, lui il a une voix qui est variable entre 1m20 et 1m70 pour pouvoir aller dans différents types de cultures. Et là c'est issu d'une collaboration entre laboratoire de recherche et entreprise privée et start-up. Donc c'est coordonné par Citia. L'idée c'est de pouvoir avoir cette fois-ci un robot commercialisé dans le courant de l'année prochaine et qui reprend certaines des fonctionnalités qu'on développe d'un point de vue théorique sur l'autre robot.
Sauf que là il pourra donc travailler dans les maraîchages, la viticulture, la arboriculture, enfin quasiment dans tous les domaines.
Voilà, oui, l'idée c'était vraiment de pouvoir s'occuper de différents types d'exploitation. Donc à la fois dans les serres, à la fois en plein champ, à la fois en viticulture, éventuellement en arboriculture.
Il y a beaucoup de prototypes, mais pas énormément de commercialisation. Comment vous l'expliquez ça dans l'univers des robots agricoles?
Alors bah aujourd'hui, il y a déjà un problème de maturité. Jusque-là, les algorithmes n'étaient pas toujours suffisamment efficients pour pouvoir prétendre à une commercialisation. On était sur des robots commercialisés qui étaient à une échelle beaucoup plus réduite parce qu'il y a aussi des problèmes de réglementation par rapport à l'utilisation de ces robots. Donc dans les champs, on est dans un espace privé, donc là, il faut répondre à certaines normes qui ne sont pas encore adaptées au niveau robotique.
Il y a encore des freins réglementaires.
Parce que les normes qui sont utilisées pour les machines agricoles aujourd'hui, elles n'ont pas du tout été rédigées par rapport à l'utilisation de robots autonomes.
Merci Roland Hunin, nous allons continuer notre voyage à travers l'innovation dans le monde agricole. Restez avec nous.
Sud Radio, c'est ça la France.
Nous allons maintenant nous intéresser à une start-up qui a d'ailleurs été soutenue par l'Institut de recherche IRSTEA et qui a mis au point une alternative aux produits phytosanitaires. Bonjour Céline Gelet.
Bonjour.
De la start-up Innovinea et vous avez mis en point la tuile Symbio. Alors pour rappeler de manière générale, quand on veut réguler la température du sol dans les exploitations ou même dans nos propres potagers, on fait ce que l'on appelle un paillage, c'est-à-dire qu'on va poser sur le sol des matériaux, du compost, de la paille, de la tonte de pelouse, toutes sortes de choses pour protéger le sol en cas de chaleur et de gel. Donc ça évite la repousse des mauvaises herbes. Le problème, c'est que ce paillis qui est composé de ces déchets, malheureusement, il a une durée de vie limitée. Donc tous les 2-3 ans, on doit les remplacer, donc désherber à nouveau. Et là, encore utiliser pour cela des herbicides. Et vous avez réussi à mettre au point un paillis pérenne.
C'est ça. Racontez-nous. C'est un paillis fixe, donc c'est une tuile qui s'installe. Donc pour l'instant, nous avons privilégié la vigne et l'arboriculture. Donc c'est une tuile qui fait à peu près 1 mètre par 40 de large et qui s'installe sous le rang de plantation. Donc
c'est des petits modules qu'on place les uns à côté des autres.
Qui se clipsent les uns aux autres, qui se mettent sous le rang de la culture et qui permet donc de supprimer complètement l'opération de désherbage et qui nous permet également de, par les temps qui courent de changement climatique, de maîtriser la ressource en eau, donc de supprimer l'irrigation ou de la réguler en réduisant et en précisant en fait les apports d'eau en les rendant beaucoup plus efficients.
C'est vrai qu'elle est assez particulière cette tuile parce que dessus on voit des petites rainures, des petites rigoles.
Oui. Donc il y a deux espaces spécifiques qui nous permettent d'installer l'irrigation de précision et de distribuer l'eau directement au pied de la plante et du fait du couvert de bénéficier de l'intégralité des apports. Donc il n'y a pas de déperdition.
Elle est faite en quel matériau cette tuile?
Donc,
miraculeuse.
Miraculeuse, je
révolutionnaire,
sais pas,
on va dire.
Par sa simplicité, certainement. Donc c'est du polypropylène. Donc pour l'instant, nous avons travaillé sur le polypropylène qui est la solution la plus simple en injection et qui est une matière qui se recycle très très bien. Les filières sont existantes, donc ça a été notre premier choix.
Pourquoi? Comment est-ce qu'il réagit alors ce fameux polypropylène aux températures extrêmes?
Donc en fait, c'est un produit qui est complètement inerte, qui est déjà utilisé en agriculture.
Ah oui.
Donc c'est un matériau qui a déjà une expérience sur le terrain. Et on est en recherche sur l'intégration de biomatériaux, mais là qui nécessite des études plus poussées sur la durabilité et la dégradation dans le temps.
Est-ce qu'elle est commercialisée cette tuile?
Donc bientôt.
Bientôt. C'est en projet.
C'est
ça
un
arrive.
Projet.
C'est prévu pour quand?
On travaille dessus d'arrache-pied. Donc on a 6 mois de développement avec l'industriel qui va être retenu. Normalement, après les vendanges 2018, on devrait avoir les premières installations dans les vignes du Languedoc et d'autres territoires qui nous ont déjà interrogés pour installer Tuile Symbio.
C'est, ça a été long à mettre en place. J'imagine que ça a été breveté, la formule.
Donc, le brevet, on l'a obtenu en février 2017, après un an et demi de travail. Et on a fait notre premier site édit pour la présentation officielle du produit. Une fois qu'on a eu les résultats de la deuxième année d'expérimentation, donc on a conduit avec IRSTEA.
Oui, je vois que Roland Lénin opine du chef. Effectivement, hein, l'IRSTEA a accompagné la tuile Symbio.
Ça a été notre centre de recherche.
Oui, Roland Lénin, pardon.
Oui, complètement, oui.
De quelle façon vous avez pu soutenir justement le projet de la tuile Symbio au sein de l'IRSTEA? C'est la chance de pouvoir bénéficier de chercheurs de l'IRSTEA.
On voulait avoir une caution scientifique à notre projet qu'il est à la fois simple et innovant. Et on avait un gros impact à mesurer sur l'eau, qui est un vrai sujet. Donc on a interrogé plusieurs centres de recherche et notre choix s'est porté sur l'IRSTEA qui répondait le mieux à ce qu'on attendait. Et c'est un vrai partenariat qui est très actif de la part d'IRSTEA et on est très contents de notre choix.
Il sera destiné uniquement aux agriculteurs?
Non,
ou bien
ce
produit ou bien aux particuliers également?
Aujourd'hui nous sommes concentrés sur la viticulture qui était la culture qu'on connaissait le mieux. On a des grosses demandes de développement sur l'arbo et on est en train de mettre en place un produit pour le maraîchage et le jardinier, donc pour que tout le monde puisse profiter de systèmes de paillis fixes présentant un système d'irrigation.
D'ailleurs, ça existe ailleurs qu'en France, ce système de paillis fixes?
Non, il n'y a pas de... Il y a des schémas qui ont été déposés, mais rien n'a été commercialisé. On n'a pas de choses similaires.
C'est que on est les premiers sur ce domaine-là.
C'est ça.
Ça fait plaisir. Merci Céline Gelé et on souhaite un gros succès à cette tuile Symbio.
Sud Radio, c'est ça la France.
Alors Roland Lénin, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au sein de l'IRSTEA. Vous avez notamment créé une association au sein de l'IRSTEA qui s'appelle l'association RobAgri, toujours dans cet objectif d'aider toutes ces start-up innovantes, les aider à structurer leurs projets, hein, c'est ça?
Oui, voilà, parce qu'en fait on a aussi une mission d'accompagnement et le résultat des recherches doit aussi profiter au plus grand nombre. Alors du coup, sur le côté robotique, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de start-up qui émergeaient dans cette thématique-là, qu'on peut accompagner de différentes manières. Donc souvent on a des doctorants qui sortent de chez nous avec des bonnes idées et puis ils veulent créer leur entreprise par rapport à ça. Et il y avait aussi un besoin justement de normalisation et de certification pour les robots agricoles. Et du coup avec l'AXEMA, on a créé cette association qui a vu le jour le 20 octobre 2017, donc toute jeune, et qui regroupe aujourd'hui 64 partenaires à la fois publics, labos de recherche et représentants des agriculteurs comme les coopératives. Et son but c'est vraiment de structurer une filière agricole, enfin robotique agricole.
On les accompagne jusqu'à quel point ces
startups? L'idée c'est que, alors là il n'y a pas que des startups, il y a des startups et il y a des constructeurs qui sont traditionnels dans le monde de l'agriculture. Voilà, sur l'accompagnement des startups, on les accompagne jusqu'à ce qu'elles soient matures. On a aussi On a aussi des pépinières d'entreprises qui permettent d'incuber, enfin des incubateurs de start-up. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, on peut les aider à développer leur projet à partir du moment où c'est issu de travaux de recherche.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit dans ce sein de l'agriculture, on est un petit peu perturbé par le nombre de personnes autour de nous. Alors merci beaucoup pour votre témoignage, Roland Lénin, je l'appelle, donc vous êtes directeur de recherche au sein de l'IRSTEA. Je vous propose maintenant de découvrir un autre acteur incontournable ici au salon de l'agriculture et qui ne cesse de grandir d'année en année, il s'agit de la ferme digitale.
Sud Radio, c'est ça la France qui innove et la French Tech.
Bonjour Karine Breton, Caillou.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la communication de la ferme digitale, de cette ferme connectée. Alors pour faire simple, la ferme digitale, elle a été fondée donc en 2016, c'est très récent, par 5 startups et elle a pour objectif de promouvoir l'innovation et le numérique pour une agriculture performante et durable. Racontez-nous la genèse de cette aventure professionnelle et humaine, car tous les fondateurs ont un lien avec le monde agricole.
Ah oui, c'est d'ailleurs le prérequis à la limite de la ferme digitale. La belle histoire, c'est qu'il y a 2 ans, ces 5 jeunes entrepreneurs, 5 jeunes fondateurs de start-up se sont rencontrés et se sont dit, voilà, l'agtech en France, elle est là, on innove, il y a plein de choses à faire, mais comment est-ce qu'on fait pour communiquer auprès des agriculteurs et du grand public? Voilà.
Donc c'est comme ça qu'elle a commencé cette histoire?
Tout à fait. Donc ils se sont rencontrés, ils se sont dit, bon ben que faire? On est 5, pourquoi pas créer cette identité au-dessus de nous. Et aujourd'hui, on a d'ailleurs les logos vraiment au-dessus de nous sur notre stand.
Vous êtes très visible ici, hein, au sein de l'agriculture.
On est content, ça veut dire que ça fonctionne. Et les gens sont contents.
Ouais. C'est un vrai succès. Vous êtes passé en 2 ans de 5 à 21 start-up.
Tout à fait, 24 même depuis hier.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous couvrez tous les secteurs.
Tous les secteurs et surtout vraiment toute la chaîne de valeur agricole, c'est-à-dire depuis la production jusqu'à la consommation en fait.
Financement participatif, oui. Big data, objets connectés.
Tout à fait. Robotique aussi, on en parlait avec Nayo Technologies, une start-up d'Occitanie, de Toulouse. Voilà, tout ça en fait. C'est vraiment... On est vraiment un consortium d'acteurs très disparates, mais qui finalement se retrouvent ancrés dans cette même ligne directrice de promotion de l'agriculture citoyenne, durable et performante, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Ce qui est incroyable, c'est de voir la moyenne d'âge. Vous avez tous quoi, 30 ans grand maximum. Vous êtes tous très jeunes.
Moi, j'en ai 33 et
oulala,
je fais
partie
des vieux. Ouais, exactement. C'est la cata.
Et vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. On sent cette envie de communiquer sur vos savoir-faire.
Oui, on a besoin de ça. On a besoin de communiquer auprès des agriculteurs et puis on a besoin de communiquer auprès des citoyens. On va voir tout à l'heure, mais c'est vrai que cette communication, cette sensibilisation du grand public, mais même du monde agricole, par rapport à tout ce qu'on peut proposer, nous, en innovation et en service au sein de nos startups, c'est essentiel. Si on n'arrive pas à communiquer, si on n'arrive pas à les rassembler et à les sensibiliser à ça, bon, ben, on reste tous un petit peu chacun de notre côté et puis ça ne fonctionne plus. Donc voilà, et cette transition, elle va être essentielle et obligatoire.
Et vous avez le sentiment que vous êtes entendu ici au Salon de l'Agriculture ?
Oui, alors de plus en plus, c'est vrai que maintenant, à 24 startups, c'est d'autant plus simple. Plus on est de fous, plus on rit, mais c'est aussi l'union qui fait la force. Ouais. Voilà, exactement. À 5, ça a été compliqué, mais bon, il y avait un peu l'effet de nouveauté la première année. Donc finalement, on a réussi à communiquer un petit peu sur cette nouvelle association. L'année dernière, on était sur les deux salons, Salon de l'Agriculture et au CIMA aussi. Donc ouais, et puis on fait de 10 à 15 salons par an avec l'étiquette ferme digitale.
Et on note déjà en 2 ans une évolution dans les objectifs de cette ferme digitale. Au début, vous étiez très centré sur le digital et désormais, vous souhaitez également promouvoir l'innovation agricole au sens large.
Tout à fait, c'est important. L'innovation, elle n'est pas que digitale. Le digital, comme je disais tout à l'heure, le passage au numérique est essentiel. Mais il y a aussi des startups comme Axioma, Entomo Farm ou Insight qui développent en fait des process chimiques ou des process de réalisation de produits qui n'ont rien à voir avec le numérique, mais qui vont dans le sens de cette innovation, de cette évolution de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain.
Alors là, vous venez d'évoquer la startup Insect. Alors pour nos auditeurs de Sud Radio qui la connaissent peut-être pas, c'est une startup qui a eu l'idée de développer de la nourriture pour animaux à base de protéines d'insectes.
Tout à fait.
Et cette startup, elle est sur le point de lever 100 millions d'euros pour créer son usine de coléoptères.
C'est fou.
C'est incroyable.
En France, c'est un sacré record en fait. Tout à fait. Ce sont souvent des sommes dont on entend avec des fonds d'investissement américains. En France, ça c'est encore trop jamais fait. Hein. C'est un beau succès, tout à fait.
Vous avez le sentiment que ça éveille l'intérêt des investisseurs, ces secteurs d'avenir, toutes ces startups, notamment au sein de la ferme digitale.
Il y a une vraie appétence en fait pour la tech, comme on dit, l'agriculture innovante. En France, on n'est vraiment pas les derniers. Je dirais même qu'on est très bien placés. On a énormément de startups. Nous, on est 24, mais on n'est pas exhaustif au sein de la ferme digitale. Hein. Je ne saurais même pas dire combien de startups en France il y a dans ce secteur-là. Mais on est bon en innovation, on est bon en recherche et en développement. Et donc, la France attire, nos startups attirent. Et ce qu'on veut, c'est que ça continue encore de manière exponentielle, comme l'évolution d'une propre startup.
Et c'est touchant de voir que parmi tous ces fondateurs, on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'enfants d'agriculteurs qui n'ont pas eu envie de reprendre l'exploitation familiale, mais par contre, qui ont eu envie de rester dans ce domaine-là et aider le quotidien de ces agriculteurs.
Il y a des enfants d'agriculteurs, des petits-enfants d'agriculteurs, mais il y a aussi des agriculteurs qui sont fondateurs de start-up et qui arrivent à jouer sur les deux tableaux. Marie-Laure vous en parlera tout à l'heure, c'est un bon exemple avec la start-up Votre Machine, mais David Joulin aussi avec Équilibre. Voilà, ce sont des agriculteurs qui, à un moment donné, se sont posés la question, c'est-à-dire, mais voilà, là, j'ai un problème. J'ai un souci, il y a un truc qui ne me convient pas, mais j'ai pas de solution. Que faire ? Et bien donc, je trouve la réponse et je développe et je crée une société et je fédère toute une équipe autour de moi pour faire avancer le secteur, en fait. Et finalement, la remontée du besoin de terrain, c'est bien là le principal. Enfin, on est sûr de ne pas être déconnecté de la réalité. Quoi.
Et peut-être que parmi nos auditeurs du Sud Radio, il y a des jeunes entrepreneurs qui ont envie de faire partie de cette femme digitale. Quelles sont les conditions à remplir?
Alors, les conditions à remplir, on n'est pas un accélérateur, on n'est pas un incubateur, on est une vraie association. Toutes les startups qui sont dans la ferme digitale sont déjà matures commercialement. Parce qu'une startup, c'est dans sa définition aussi, ça va très vite dans un sens, mais ça peut aller très vite dans l'autre. Ça, c'est un premier critère chiffré. Après, ce qu'on veut, c'est que ce soit une start-up qui correspond à une philosophie, qui développe des démarches RSE.
Et qui correspond à la philosophie, justement.
La philosophie de la ferme digitale, c'est vraiment promouvoir l'innovation, parler de l'agriculture, aller dans le sens de l'agriculture de demain, en parler positivement, hein, parce que c'est quand même un secteur qui est complexe et qui est parfois. Qui connaît des crises, hein, c'est pas rose tous les jours. Il faut aller dans le sens du positif. Voilà. Mais on est une association qui fédère des start-up qui travaillent pour toutes les agriculteurs.
Est-ce qu'il faut être complémentaire aussi dans ce que l'on peut apporter à la ferme digitale?
Alors, complémentaire, finalement, c'est pas un critère parce que ça se fait tout seul. On a commencé à 5, on est 24 et finalement, cette complémentarité-là, elle est naturelle. Donc, c'est pas un critère, elle se fait naturellement, on n'a rien à faire, c'est super.
Vous en parlez très bien, avec beaucoup de passion. Ça, c'est un plaisir de vous écouter.
C'est gentil.
On sent qu'il y a une belle énergie, hein, au sein de cette ferme digitale.
Oui, il y a une vraie énergie. Par contre, je ne suis pas seule à avoir cette énergie-là. Ouais,
vous avez un plaisir de vous occuper de la communication de cette belle
oui,
ferme
par
digitale.
Contre, c'est une vraie passion. Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Karine Breton-Cailleux. Donc, je rappelle que vous êtes responsable de la communication de la ferme digitale. Connaissez-vous la start-up Équilibre, qui a eu une idée géniale, développer un logiciel qui permet à l'agriculteur de ne plus avoir à passer plus de 500 heures par an à gérer l'administratif? Eh bien, c'est tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France, en direct du Salon de l'Agriculture, Nathalie Schrengirma.
Et oui, toujours en plein cœur du Salon de l'Agriculture, au stand de l'IRCALIM Occitanie. Et c'est un bonheur d'être ici pour notre spéciale innovation dans le monde agricole. On va s'intéresser maintenant à un fils d'agriculteur qui aime ce métier, qui aime l'agriculture, mais qui n'a pas souhaité travailler dans ce domaine, car il n'était pas prêt à faire une croix sur sa vie sociale, car c'est un métier qui est très chronophage. Mais grâce à son expertise dans ce domaine, il a créé un logiciel pour alléger la gestion au quotidien d'une exploitation. Bonjour David Joulin.
Bonjour.
Alors vous êtes cofondateur de cette ferme digitale qu'on a évoquée tout à l'heure. Vous êtes surtout fondateur de la start-up Équilibre. Je le disais à l'instant, vous êtes fils d'agriculteur. Vos parents font de la polyculture élevage en Charente-Maritime. Alors vous avez réussi à simplifier la partie administrative dans ce domaine, qui prend un temps fou, 500 heures par an en moyenne. Avant de nous présenter ce que vous avez développé, expliquez-nous ce qui prend autant de temps, toutes ces données que doivent traiter les agriculteurs.
Eh bien en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais sur une ferme, il y a énormément d'obligations réglementaires. Et toutes ces obligations-là représentent en moyenne pour une ferme de la taille de la mienne à peu près 500 heures de travail par an. Alors ça ne veut pas dire que l'agriculteur va passer 500 heures à faire tout ça, mais ça veut dire que lui et ses partenaires en tout passent à peu près 500 heures par an pour uniquement des obligations réglementaires et administratives.
Et c'est du temps au moins passé sur l'exploitation.
Complètement.
Et ça, vous l'avez vécu, vous, en tant que fils d'agriculteur?
Je l'ai vécu une partie de mon temps, une partie de ma jeunesse avec mon père, où on passait toute la matinée en général et l'après-midi à travailler sur la ferme, à traire les vaches, etc. Et le soir, mon père, à partir de 7h, 8h jusqu'à 9h, 10h du soir, il faisait, comme il dit, les papiers. Hein, c'est-à-dire que c'était pointer ses relevés de compte bancaire, trier ses factures, remplir les carnets de traçabilité, c'est-à-dire enregistrer ce qu'il avait fait dans ses champs, est-ce qu'il avait soigné ses vaches, etc.
Et c'est une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas souhaité reprendre l'entreprise familiale, enfin l'exploitation familiale?
Oui, tout à fait. Moi, c'est un métier que j'adore, c'est un métier de passion. Mais aujourd'hui, avoir une ferme avec de l'élevage, c'est tous les matins, tous les soirs, 365 jours par an. Moi, je me rappelle, étant enfant, je partais maximum 3-4 jours en vacances avec mon père dans l'année. Je le voyais un soir, deux soirs par mois. Voilà, c'est quand même... il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, ce métier-là, c'est 70 heures minimum de travail par semaine pour des gens qui réussissent à se dégager un revenu entre 500 et 1000 euros les
et
bonnes
encore,
années.
Ouais.
Voilà. avec en plus un investissement énorme, puisque vous devez, quand vous vous installez, acquérir des terres, des bâtiments, du matériel. Et donc tout ça, mis bout à bout, aujourd'hui, compte tenu du contexte sociétal, fait que bah, la passion, c'est super, mais ça ne suffit pas à s'épanouir dans la vie. Ça, on ne peut pas avoir une vie comme ça pendant 40 ans à faire que ça.
Alors vous êtes ingénieur agronome et donc vous avez mis au point un logiciel pour gérer l'exploitation. Expliquez-nous.
Bien, en fait, fort de ce constat, de toutes ces obligations, moi j'ai voulu simplifier la vie de ces gens qui quand même s'investissent pour nourrir les autres. Et on a développé un logiciel tout en un, accessible via Internet, qui regroupe en fait toutes les fonctionnalités dont on a besoin, c'est-à-dire que ça va de la comptabilité à la gestion des stocks, à la facturation, à la traçabilité à la fois de la partie animale et de la partie végétale. Tout ça accessible en ligne.
La gestion des parcelles, tout quoi. Tout est pris en...
C'est ça, tout. Alors aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à 100% de tout développer, parce que c'est quand même un travail de titan, mais on arrive à une application qui est fonctionnelle et qui marche sur tous les domaines de base.
Ça veut dire que tout est interconnecté ?
Complètement, c'est un concept où vous avez toutes les données au même endroit, ce qui fait économiser des ressaisies, puisque par exemple, quand vous allez enregistrer des stocks, hein, vous allez acheter de l'engrais, de la semence, dans le logiciel, automatiquement, ce bon de livraison va se transformer en facture d'achat, qui elle-même va se transformer en écriture comptable.
Ah oui, ça veut dire que par exemple, si jamais je sème des graines, elles vont être automatiquement... soustraite de mon stock de graines, dégrévées, enfin tout quoi.
Complètement. Donc c'est là en fait où on a un gain, c'est-à-dire qu'en interconnectant ces flux de gestion au sein de l'exploitation, on va réussir à économiser du temps, à faire économiser du temps à l'agriculteur et à ses partenaires.
Alors justement, vous souhaitez diviser par combien le temps passé aux tâches administratives grâce à Équilibre ?
Eh bien, on aimerait bien le diviser par 10. Aujourd'hui, on arrive à le diviser par 2.
Ce qui est déjà pas mal.
Ce qui est déjà pas mal, mais on n'est pas encore arrivé au bout. Et grâce à tous nos partenaires, parce que Équilibre a une logique de partenariat extrêmement fort. On est sur de l'innovation ouverte. On ne réinvente pas l'eau chaude. C'est-à-dire que quand on a besoin d'avoir un objet connecté sur le terrain, eh bien, on va tout de suite aller voir des partenaires qui le font déjà et on va, comme ça, aller plus vite, faire des partenariats plus durables et avoir une solution plus rapidement sur le marché pour justement abaisser ce temps de gestion.
Donc c'est une plateforme, hein. On s'inscrit, on a son identifiant, son mot de passe. Est-ce qu'il faut un temps d'apprentissage pour les agriculteurs pour justement appréhender ce nouvel outil ?
Alors, il faut toujours un temps d'apprentissage. On a fait l'expérience il y a 2 ans, on avait déjà développé une première version de notre outil où on a constaté qu'il n'était encore pas assez simple. Ça demandait trop d'apprentissage. Donc récemment, depuis 1 an, on a fait toute une démarche de réergonomisation. On a essayé de comprendre ce qui se passait dans la tête d'un agriculteur selon ses productions. Et on a complètement réergonomisé des tâches. Par exemple, aujourd'hui, en gros, il fallait 4 jours pour, en partant de rien, pour réussir à enregistrer tout son parcellaire et son assolement. On a refait, suite à cette démarche de réergonomisation, cette tâche-là, on l'a fait aujourd'hui en 3 minutes.
Ouais. Donc c'est vrai que c'est un vrai gain. Mais comment il a été accueilli par les agriculteurs ? Parce qu'il faut accepter de changer ses habitudes.
Oui, en fait, la...
Le petit bloc-notes où on notait tout à la main, qu'on gardait précieusement.
Ben en fait, c'est le point crucial, c'est le changement. Hein. Chez les hommes, c'est toujours... c'est pas la technologie en fait, qui nous bloque aujourd'hui, c'est clairement la capacité à changer, à évoluer. Et finalement, les agriculteurs l'accueillent assez bien parce qu'ils sont... Beaucoup d'entre eux sont prêts à accueillir ces solutions-là. Alors, selon leur profil, leur âge, leur maturité, leur état d'esprit, ils vont plus ou moins vite dans ce changement-là, mais on est clairement dans une dynamique où ils sont tous en train de changer, conscients qu'ils ont besoin de solutions pour améliorer leur quotidien.
Aujourd'hui, vous avez combien d'abonnés sur Équilibre ?
Aujourd'hui, on a à peu près 2000 abonnés.
Ah ouais. Et donc, votre objectif d'ici la fin de l'année ?
Notre objectif d'ici la fin de l'année, c'est 10 000.
Ouais. Ben en tout cas, merci beaucoup, hein, David Joulin. C'est un beau projet. Donc, je vous rappelle que vous êtes fondateur de Équilibre.
Sud Radio, c'est ça la France.
Alors, alors cette nouvelle génération d'agriculteurs, enfants d'agriculteurs ou tout simplement de passionnés de l'agriculture que nous mettons à l'honneur avec Sud Radio tout au long de cette émission en direct depuis le salon de l'agriculture, eh bien cette nouvelle génération, elle est ultra connectée. La preuve avec vous, David Forge. Bonjour David.
Bonjour.
Vous faites aussi partie de cette grande famille de la ferme digitale. Alors vous êtes agriculteur et youtubeur.
C'est ça.
Vous êtes agriculteur céréalier dans la région de Tours. Vous avez repris donc l'exploitation familiale de votre père, donc vous avez un parcours assez classique. Puis vous avez décidé d'expliquer à travers des vidéos votre métier sur une chaîne YouTube. La chaîne s'appelle Chaîne Agricole et c'est un carton. Vous êtes suivi par près de 30 000 abonnés, vous avez des vidéos qui atteignent les millions de vues. Alors expliquez-nous d'où vient cette envie, quasiment en effroi, cette envie de montrer votre quotidien. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai démarré il y a 3 années. À ce moment-là, j'ai compris que le grand public, les personnes auxquelles je souhaite m'adresser, se questionnaient beaucoup de comment on pouvait cultiver du blé, de l'orge. C'est des questions de mon entourage qui m'ont fait prendre conscience de ça. Ouais.
Vous êtes rendu compte en fait qu'on ne connaissait pas votre quotidien.
Voilà, oui, parce que dans les familles, on a moins de grand-papa ou d'oncle qui est agriculteur. L'idée, c'est de recréer le lien, de recréer une visibilité de notre quotidien.
Donc on arrête de vous enquiquiner avec les questions. Vous allez dire, allez, je crée une chaîne YouTube.
Oui.
Et j'explique tout de suite.
Voilà, c'est ça. Je l'explique plus à une seule personne, mais à plusieurs milliers à chaque fois.
Au monde entier.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'on peut voir sur ces vidéos?
Les travaux de la saison. Là, actuellement, c'est l'hiver. On fait de l'atelier, de l'entretien de la mécanique, donc, mais aussi l'entretien des bordures de bois. Et puis, quand les semis arriveront, enfin, les récoltes arriveront cet été, je ferai voir la moissonneuse, comment on la règle et comment ça se passe, les difficultés qu'il peut y avoir.
C'est presque des tutos en fait. Si on veut devenir agriculteur, il suffit de vous suivre,
oui.
C'est réalisé.
Ça me montre. Et j'essaye d'être pédagogue en fait et d'expliquer comment et pourquoi on fait telle ou telle action finalement.
Ouais. Vous postez combien de vidéos par semaine, par mois?
Donc c'est à la semaine, je raisonne à la semaine, je me donne une vidéo par semaine. Et parfois, exceptionnellement, j'en fais une ou deux de plus dans la semaine. Quand j'ai une idée, j'ai créé une seconde chaîne où voilà, c'est des vidéos bonus, un peu plus courtes, moins monté, moins travaillé, où je vais avoir envie de passer un petit message supplémentaire.
Donc voilà. On a la chaîne agricole et la deuxième chaîne dont vous parliez à l'instant, c'est David Forge.
C'est ça, ouais. David Forge, les bonus, exactement.
Votre nom.
Ouais.
Et ça prend du temps à tourner ces vidéos parce qu'on se demande à quel moment de la journée vous le faites.
Je le fais le soir, voilà, quand la journée de travail est terminée, je ne regarde pas la télé, c'est quelque chose que je fais naturellement, de monter la vidéo, de la mettre en ligne, mettre une description, répondre aux commentaires. Donc ça prend, oui, quelques heures par semaine quand même, mais c'est tellement passionné c'est quelque chose que j'adore faire, monter la vidéo, ça fait des années que j'aime faire ça. Donc je ne compte pas vraiment mon temps en fait, c'est quand c'est une passion, en
ça,
plus du métier, c'est
super.
La
fin de la journée, c'est pour monter la vidéo, mais après
c'est
pour tourner les images.
Voilà, oui, le tournage va pas me prendre tellement de
vous
temps.
Vous mettez
en fait
des GoPros, c'est ça, un peu partout?
Voilà, je l'accroche un petit peu sur tout ce qui se présente, une branche d'arbre, une aile de tracteur, donc ça me prend pas tellement de temps que ça sur une semaine. Le tournage, ça va peut-être m'enquiquiner, enfin, me rajouter 30 minutes supplémentaires sur ma semaine en fait.
Mais il a fallu aussi apprendre ce métier entre guillemets de cadreur, c'est-à-dire s'intéresser à toutes ces nouvelles technologies.
Oui, je suis très attentif à ce qui existe chez les autres vidéastes, que ce soit sur YouTube ou même les codes de la télé, j'aime analyser ces choses-là. Ouais.
Et comment ça a été perçu par votre entourage, votre entourage notamment d'agriculteurs autour de vous qui vous ont vu évoquer votre quotidien sur les réseaux sociaux?
Peut-être au début, parmi les collègues agriculteurs plus anciens que moi, une petite méfiance, parce qu'ils sont un peu plus à garder des secrets, à garder leur savoir finalement pour eux. Mais ils ont vu que, ils ont compris avec le temps et puis depuis 3 années maintenant qu'il y a un réel intérêt, une curiosité du plus grand nombre. Et puis ils entendent parler de moi par des personnes extérieures qui, enfin, ça parle donc et plutôt de manière positive. Donc,
vous êtes de plus en plus nombreux, non? Vous êtes combien d'agriculteurs youtubeurs aujourd'hui?
Alors je dirais, allez, peut-être une dizaine et puis à la fin de l'année, je pense une vingtaine, si on peut. Ben voilà, c'est quelque chose qui est, on donne, je pense, un exemple, oui, ça crée des envies aux autres.
Et ça peut aussi créer des vocations finalement.
C'est ce que,
jeunes.
Oui, c'est ce que je réalise et que je n'avais pas vu venir dans les commentaires. Les jeunes qui s'engouffrent dans cette voie agricole dans leurs premières années d'études vont m'écrire et me disent « tu confortes mon choix d'études ».
Ça fait plaisir, ça.
Oui, ça touche beaucoup. Ouais, c'est
vous avez même interpellé le président de la République, Emmanuel Macron, une vidéo.
Oui, il y a une semaine, oui.
Et ça a fonctionné
à ma plus grande surprise. Et non, mais je suis très heureux qu'il m'ait reçu ensuite, il y a quelques jours à l'Élysée. Disons que voilà, il a une politique ambitieuse, il a des projets, et je voulais échanger avec lui et avoir quelques questions. Je lui ai adressé quelques questions pour mieux comprendre ses projets et mieux savoir où je vais.
Ça montre à quel point, grâce à cette chaîne YouTube, vous pouvez joindre qui vous voulez, finalement.
Ouais. Bah, c'est vrai que mon envie d'atteindre le grand public, finalement, c'est très très large, en fait, jusqu'à l'Élysée et plus haut de l'État. Donc,
Paraît que vous êtes quelqu'un de plutôt timide, de plutôt réservé, donc vous avez dû vous faire violence pour réussir à mettre au poids cette chaîne agricole.
C'est vrai qu'au début, je ne montrais pas mon visage, j'avais pas envie de me dévoiler, une certaine timidité. Et puis, il y a des choses, c'est venu assez naturellement de montrer mon visage. Et puis, les gens s'attachent encore un peu plus à ça, à une personnalité derrière. J'ai compris que c'était nécessaire de se dévoiler. Et puis, c'est super enrichissant, en fait.
Preuve, c'est que ça vous a donné envie de créer la deuxième chaîne, David Forge.
Oui, voilà. Oui, avec... c'est du supplément. Voilà, c'est finalement... on est capable de réaliser une vidéo par jour. Il y a toujours quelque chose à raconter de notre vie. C'est... La vie d'agriculteur est fabuleuse, et puis tout ce qui tourne autour, c'est...
Peut-être que vous allez bientôt peut-être témoigner dans les écoles de votre savoir-faire.
Oui, pourquoi pas. J'ai quelques idées comme ça qui me sont venues, et puis on me demande si je ne voudrais pas venir faire le professeur. Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, David Forge. Alors, j'invite nos auditeurs de Sud Radio à vous suivre sur votre chaîne YouTube, La Chaîne Agricole et David Forge. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France, en direct du Salon de l'Agriculture, Nathalie Schrengirma.
Nous sommes toujours en direct sur le stand de l'IRCALIM Occitanie pour évoquer l'innovation dans le monde agricole. Alors quand on se promène sur le salon, autant vous dire qu'on en croise des grosses machines agricoles. Certaines sont énormes, dont les prix atteignent des centaines de milliers d'euros. Donc c'est pas toujours facile pour les agriculteurs de se les procurer. En Nouvelle-Aquitaine, eh bien sachez qu'on a su innover à ce sujet.
Sud Radio, c'est ça la France qui innove et la French Tech.
Bonjour Marie-Laure Lafarge.
Bonjour Nathalie.
Vous êtes directrice associée du site votremachine.com. Vous êtes également issue d'une famille d'agriculteurs.
Absolument.
Donc le monde agricole, vous le connaissez bien.
Absolument. Et on est fondé par un agriculteur lui-même.
Voilà. Et vous savez que les machines, ça coûte cher.
Absolument.
Ça coûte combien en moyenne le prix d'un tracteur?
Ah, c'est difficile parce que les puissances sont très variables, mais on peut aller de 80 000 euros à des montants qui dépassent plusieurs centaines de milliers d'euros.
Ah, et quand on pense que parfois ils sont utilisés au mieux 15 jours dans l'année.
Pour certaines fois, oui. La durée d'usage moyen en France, c'est autour de 500 heures. Sur une année, ça fait peu.
Donc avec ce site, votremachine.com, vous proposez une solution.
Oui, alors le constat a été porté par notre fondateur, Jean-Michel Lamotte, qui est lui-même agriculteur, qui avait connu cette problématique particulière de l'installation sans être fils d'agriculteur et avec... besoin d'investissement important pour acquérir du foncier et du matériel. Et très tôt, il a opté pour de l'acquisition à plusieurs, voire de la location, pour vraiment s'en tenir à des investissements les plus compétitifs possibles et les plus proches de ses besoins. Puisqu'il faut savoir qu'en France, les charges de mécanisation, c'est à peu près 40% du compte de résultat d'une exploitation. Quand chez les concurrents européens, notamment, c'est plutôt autour de 10-12%.
Ouais, donc c'est un budget non négligeable. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme matériel sur votremachine.com?
On trouve de tout. En fait, on a l'habitude de dire qu'il vaut mieux que le matériel dorme sur le site que sous le hangar. Donc, en fait, on va trouver la bétonnière, le sécateur électrique viticole.
Si je veux une moissonneuse batteuse, je peux en trouver?
On peut. Je vous conseille, Nathalie, de louer à ce moment-là la moissonneuse avec son chauffeur, ce qui est aussi possible puisqu'on peut aussi louer du matériel avec les prestations.
C'est ça justement la plus-value par rapport à la location que l'on connaît en général auprès des concessionnaires. Là, on loue le matériel et le propriétaire du matériel.
On peut. Clairement, le premier objectif, c'est l'aspect prix, générer du revenu pour les agriculteurs propriétaires de matériel. 100% du matériel appartient à des agriculteurs sur notre site. Donc ça, c'est une vraie première. Le deuxième sujet, ça, c'est l'effet communauté, finalement, de ce genre de plateforme collaborative, c'est que on recrée de nouveaux liens derrière. Ce matériel peut être loué à des particuliers, il peut être loué à des collectivités locales, des petites communes rurales notamment, qui sont en difficulté pour acquérir eux-mêmes du matériel, ou des entreprises privées. Et dans ce cas-là, ce que le site propose effectivement, avec une assurance adaptée, c'est de louer le matériel et le chauffeur agriculteur qui amène son savoir-faire à l'extérieur de sa ferme.
Alors comment ça fonctionne concrètement?
Bon, c'est très simple. On a l'habitude de prendre un raccourci très immodeste, mais on a l'habitude de dire qu'on est le Airbnb du matériel agricole, c'est-à-dire que c'est une plateforme collaborative, vous déposez des photos de votre votre matériel, vous certifiez que vous êtes agriculteur avec des données administratives assez simples. On assiste les agriculteurs dans l'élaboration d'un prix. On gère toute la logistique de la mise en relation, on sécurise le paiement. La grande nouveauté sur le site, c'est le paiement d'avance, ce qui est très rare en agriculture.
L'agriculture, c'est vrai, voilà. Ça change.
Et on assure le matériel de l'instant où l'état des lieux est établi au moment où le matériel revient sur la base d'un second état des lieux.
C'est un peu comme vous disiez, donc si on reprend votre métaphore de l'Airbnb de la location, on fait l'état des lieux, donc si jamais le matériel est abîmé,
on le signale sur l'état des lieux.
Qu'est-ce qui se passe? Il y a des assurances?
On le signale sur l'état des lieux, notre plateforme est assurée et le matériel est assuré du début à la fin de la transaction. On peut même aller jusqu'à sécuriser, parce qu'on a un vrai sujet de confiance, on ne parle pas de vacances, là on parle de matériel de travail et de matériel professionnel. Notre assurance peut aller jusqu'à remplacer le matériel ou indemniser l'absence de matériel pendant 15 jours, jusqu'à 45 jours après la restitution d'un matériel abîmé.
Donc ça veut dire que finalement avec ce site votremachine.com, on va quitter les formats économiques parfois rigides et chers des concessionnaires. Là on voit que c'est beaucoup plus flexible.
On offre de la flexibilité. La location existe depuis longtemps, hein. On n'a rien inventé avec votremachine.com. Le numérique amène surtout une nouvelle façon de travailler, de collaborer, d'abord sur des périmètres géographiques différents, et ensuite avec vraiment l'idée d'aller au plus juste sur le prix. Le concessionnaire peut vous louer un tracteur, mais ne vous le louera pas moins de 150 heures. Ouais. Sur votremachine.com, vous avez besoin d'un tracteur une demi-journée, on vous loue un tracteur une demi-journée.
Donc c'est une source de rentabilité pour les uns et des économies pour les autres.
Absolument, absolument. On peut évidemment, le propriétaire peut gagner de l'argent. Le but n'est pas d'arrêter d'acheter du matériel. On peut en acheter, mais c'est une façon d'optimiser l'investissement pour ceux qui ont acheté du matériel. Et pour ceux qui n'ont pas encore les moyens d'en acheter, ou pour des besoins trop ponctuels, c'est une façon d'éviter des investissements inutiles et trop lourds.
C'est un complément salarial qui est non négligeable. On le disait tout à l'heure avec David Joulin, le salaire moyen d'un agriculteur est entre 500 et 1000 euros par mois, et ça c'est dans le meilleur des cas, parce que sinon on est plutôt aux alentours des 350-400 euros. Et finalement, je pense notamment aux agriculteurs à la retraite. Pour eux, c'est aussi une manière de se sentir utile.
Bah, effectivement, sur les agriculteurs à la retraite, on trouve là quelques petites anecdotes et de jolies histoires autour de la plateforme. En fait, un agriculteur qui part à la retraite et qui n'a pas revendu son matériel peut effectivement continuer à trouver à la fois une utilité sociale dans la transmission que ça peut générer, mais aussi du revenu supplémentaire en optimisant le matériel qu'il a gardé sous son hangar malgré l'arrêt de son activité.
Oui, puis quand on pense que en général, les agriculteurs commencent très tôt à travailler sur les exploitations, c'est dur du jour au lendemain d'arrêter de travailler.
Absolument.
On a commencé à 14 ans, 15 ans, donc finalement on a un plaisir à partager son expérience.
On partage l'expérience, on transmet. Il est arrivé parfois qu'on se donne des coups de main à l'issue d'une rencontre sur la plateforme. C'est pas l'objectif premier, mais c'est un effet induit du collaboratif et des réseaux sociaux.
Puis c'est beau de se dire que finalement avec le digital, contrairement à ce que l'on pourrait croire, eh bien on renoue des liens sociaux, on recrée de l'humain.
Voilà, le sujet là du digital qui peut faire peur parfois, ce n'est pas de remplacer le travail. Nous-mêmes ne sommes pas propriétaires de matériel, c'est vraiment de réactiver des réseaux et des relations qui pouvaient tendre parfois dans la difficulté. On peut s'isoler aussi, donc là on recrée du lien différemment.
Puis comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un monde qui est en perpétuelle évolution, donc j'imagine qu'avec une hyper présence des nouvelles technologies, donc on a constamment besoin de nouvelles machines en fonction de ce que l'on souhaite faire. Maintenant c'est le bio, alors j'imagine qu'il y a des machines adaptées.
Exactement, le bio est très coûteux en matériel quand on veut se lancer, et c'est un sujet dans l'air du temps et d'avenir sûrement. Donc quand des jeunes ou moins jeunes veulent innover dans ce domaine-là, il est plus facile effectivement de passer par de la location pour multiplier les usages tout au long de la production.
Alors il a fallu convaincre les agriculteurs.
Il faut toujours, on évangélise.
Allez sur le site votremachine.com. Et vous, les premiers que vous avez dû convaincre, c'est votre famille.
Oui, parce que l'habitude n'est pas là. La vraie habitude dans l'agriculture, c'est la propriété. Et pour plein de raisons, l'habitude, la fierté aussi parfois, se tourner vers votremachine.com, c'est pas si simple. Et le plus dur, c'est de faire le premier pas. Moi, j'ai eu l'occasion effectivement d'amener sur la plateforme des cousins qui finalement se sont rendus compte qu'ils pouvaient gagner en 10 jours, en louant un matériel, 1500 euros. Ce qui est là aussi, pour revenir sur les chiffres qu'on évoquait tout à l'heure,
non assez négligeable.
Rare.
Et je crois que c'est au monde, la grippe aviaire, c'est ça.
Oui, oui, oui.
Vous n'utilisez pas leur machine.
Absolument.
Donc là, vous avez dit, mais alors pourquoi vous ne les louez pas, tout simplement?
Alors, effectivement, on est originaire du sud-ouest, puisqu'on est landais.
On entend l'accent.
Voilà. Et la plateforme s'est développée dans cette période terrible pour les producteurs de volailles et de canards du sud-ouest. Et certains ont effectivement trouvé un moyen de faire du complément de revenus et d'activité à ce moment-là. Oui.
Quel est le public public visé? C'est uniquement les agriculteurs, les collectivités, ou bien les particuliers aussi peuvent louer du matériel sur votre machine.com?
Alors, ce qui est certain, c'est que 100% du matériel appartient à des agriculteurs. On ne louera pas du matériel appartenant à des concessions ou à des loueurs professionnels, puisque vraiment on est sur ce parti pris de dire le revenu doit revenir aux agriculteurs. Pour ce qui est des locataires, vous pouvez, si vous voulez, vous en qualité de particulière, mais aussi une collectivité locale, des entreprises de travaux publics, d'autres agriculteurs bien sûr, louer du matériel. Les entreprises de travaux publics sont par exemple très friandes de matériel agricole, type remorque, benne TP agricole, même des tonalisiers qu'on voit parfois sur les élevages et qui servent à arroser les chantiers un peu poussiéreux l'été.
Merci beaucoup Marie-Laure Lafarge.
Avec
Je rappelle
plaisir.
Que vous êtes directrice associée du site votremachine.com.
Sud Radio, c'est ça la France, le tourisme des savoir-faire avec Thibault le French Trotter.
Mais oui, il est temps d'aller se balader avec Thibault, notre French Trotter. Alors depuis l'ouverture, on vous a aperçu dans le salon, micro à la main, dans les allées. Et d'habitude, vous faites des kilomètres pour aller visiter nos belles entreprises françaises. Mais cette semaine, Thibault, je vous ai presque assigné à résidence.
Oui, mais ça m'a permis de voir toutes les régions à portée de micro. Bon, j'ai beaucoup marché, il y a quand même 7 pavillons, ça fait plusieurs milliers de mètres carrés. Mais je vous ai quand même rapporté quelques sonores, comme on dit en radio.
Alors racontez-nous un petit peu, par quoi on peut commencer quand on vient au salon d'agriculture?
Bah, vous pouvez faire comme moi. Commencer par rendre visite à la star du salon. D'ailleurs, comme toutes les célébrités, elle a son carré VIP. Je parle bien sûr de la vache égérie du salon. On la voit sur toutes les affiches. C'est un peu le symbole de l'édition 2018. Elle s'appelle Haute. C'est une aubrac de 6 ans. Elle est couleur froment. Et comme dirait Chirac, c'est pas un bovin, c'est un chef-d'œuvre.
Et
je vous propose d'écouter cet éleveur du plateau de l'aubrac qui était en admiration devant Haute.
Elle reflète bien... l'animal qu'on a envie d'avoir dans notre région, parce qu'elle est très bien adaptée au territoire. Et voilà, on voit que c'est un animal qui n'est pas peut-être comme aussi gros que certains qu'on peut voir dans le salon d'agriculture, mais ce n'est pas le but. C'est un animal qui est adapté, qui a son veau, qui le nourrit bien, elle exploite bien l'alimentation qu'elle peut trouver sur son territoire. C'est tout à fait ce qui correspond à notre philosophie de production.
Et j'ai appris qu'il faut s'y prendre vraiment longtemps avant pour proposer une candidature, parce que j'ai croisé Daniel, un éleveur d'Ornézan dans le sud du Gers, qui prépare déjà un dossier de candidature pour 2019. Lui, il a des vaches mirandaises.
Cette année, on a déposé une candidature pour 2019. C'est au niveau du salon, il y a sûrement plusieurs candidatures qui vont choisir eux-mêmes la race qui sera à la tête d'affiche du salon, quoi. Eh bien, la mirandaise, déjà, c'est l'ancienne race de travail du département du Gers. Donc autrefois, elle faisait le travail et le veau. C'était la race de travail depuis le 19e siècle pour le département du Gers, quoi. Disons, elle a disparu avec la mécanisation, quoi, au moment de la mécanisation. Donc dans les années 80, il n'en restait plus qu'une centaine, en gros, quoi. Et aujourd'hui, on est remonté autour de 500.
Alors vous savez quoi? On va parier sur la vache mirandaise de Daniel comme prochaine égérie, Thibault. Mais il n'y a pas que des vaches, vous avez vu d'autres animaux?
Oui, tous les animaux sont là. Les moutons, les porcs, les chevaux, les ânes, les lapins. Et en passant par la basse-cour du salon, vous allez voir, je vous ai trouvé une mascotte pour l'émission. Et juste avant, vous allez entendre un vrai passionné, comme il y en a beaucoup ici. C'est Antonio, un éleveur de volailles Vorwerk de la région de Coulommiers en Seine-et-Marne.
Alors, ce sont des Vorwerk, ce sont de très très belles poules, particulièrement pondeuse, qui allie et la beauté et la ponte. C'est des poules qui sont bicolores, elles sont noires et rouges, rouges dorées. Pour moi, elles m'ont tapé dans l'œil lorsque j'ai commencé l'élevage. Et effectivement, pour élever correctement, il faut élever des volailles qu'on aime.
Est-ce qu'il a un nom, ce coq?
Non, il n'a pas de nom parce que je l'ai mis en vente. Ceux qui sont vendus, je leur donne pas de nom parce que je veux pas m'y attacher.
Est-ce que vous nous le prêtez comme égérie, comme mascotte de notre émission, C'est ça la France?
Avec plaisir, il n'y a aucun problème, je peux vous le prêter, à la condition qu'il revienne en bonne santé, je peux vous le prêter avec grand plaisir.
Nous avons un nouveau jingle, voilà, c'est cadeau. Bah, je propose qu'on l'appelle Cocorico, notre mascotte, vous êtes d'accord Nathalie?
Ça va très bien. Alors je sais que vous êtes un grand gourmand, donc je suis sûre que vous êtes allé faire un tour du côté du pavillon des spécialités régionales.
Ah, vous me connaissez bien Nathalie, je vous ai fait un petit florilège. Allez, trois régions, trois ambiances différentes. Au menu, spécialité charcutière de Haute-Loire, calisson d'Aix du roi René, et tiens, pour finir, pomme choupette du Val-de-Loire. Écoutez, ça a l'air drôlement bon ce que vous faites, qu'est-ce que c'est?
Alors c'est de la charcuterie fermière. Nous sommes un groupement d'agriculteurs en Haute-Loire. Nous avons une auberge paysanne. Et nous transformons nos produits essentiellement à base de charcuterie avec des porcs élevés en semi-plein air et élevés d'une manière naturelle. Voilà. Alors saucisson, jambon, saucisse. Après, dans les conserves, il y a du pâté de foie, du pâté de tête, du jambonneau, du tripou.
Là, je suis devant le stand de la confiserie du Roi René. Bonjour.
Bonjour. La confiserie a été créée... Enfin, on a commencé par faire du nougat en 1890 et après, on est devenu calissonnier en 1920. Donc, on aura bientôt 100 ans. C'est encore une entreprise familiale et qui reste artisanale.
La matière première, vous pouvez nous rappeler, c'est l'amande, c'est ça?
Exactement, c'est de l'amande. En fait, c'est de l'amande blanchie, donc on humidifie, qu'on mélange avec du melon confit et du sirop de sucre.
Est-ce qu'on peut assister au processus de fabrication si on vient vous voir?
Alors sur le stand, toute la semaine, effectivement, tous les après-midi, Estelle qui est là, qui nous fera des démonstrations de calissons.
Donc là, je suis avec Loïc sur un stand des Pays de la Loire. Il est incollable sur la choupette. Alors qu'est-ce qu'elle est particulière, la choupette?
Alors la choupette, c'est une pomme qui est, donc, est produite dans la région Centre-Val de Loire. C'est une pomme qui est très parfumée, très sucrée et qui est faite dans le respect du cahier des charges verger éco-responsable. En fait, on limite au maximum les traitements et les rejets sur l'environnement. Voilà, nous l'objectif aussi c'est de faire une pomme qui est aux qualités gustatives et aux saveurs exceptionnelles. On peut faire autant en pomme à croquer qu'en pomme à cuire.
Et donc, vous avez passé du temps au niveau des produits régionaux, Thibault.
Ah oui.
Vous êtes régalé entre ces calissons, les pommes choupettes.
C'est incroyable. C'est une richesse incroyable.
Alors, dites-moi, il y a une nouveauté cette année. Un espace entièrement réservé aux artisans des régions.
Ouais, ça s'appelle Artisanat et Patrimoine Rural de France. On y trouve des outils traditionnels d'agriculteurs, mais aussi des objets de notre quotidien. Et j'ai rencontré un artisan de la gueule. Je ne peux pas l'affronter de vous faire deviner ce qu'il fabrique.
Que quoi? Des couteaux, peut-être?
Bah, peut-être. On l'écoute. C'était vendredi, il était en pleine installation de son stand.
Je suis artisan, maître artisan coutelier à l'Aïeul. Sa particularité, c'est que c'est un couteau qui est robuste dans le temps. Tout est changeable, c'est-à-dire qu'on peut changer la lame, on peut changer le manche, le ressort. Et sur le stand, j'ai pris une machine, je vais faire la démonstration de tournage de manche.
Donc on peut voir ça?
On pourra voir ça. Je vais faire deux ou trois couteaux minimum par jour. Voilà, avec une partie guillochage, c'est-à-dire le travail au dos du couteau. Et j'ai le mercredi avec le stand du futur parc régional de l'Aubrac. On va faire une animation pour les enfants. J'ai fait une surprise pour les enfants, des petits couteaux à fabriquer eux-mêmes. Voilà.
Bon, on l'a bien compris, hein, ça se passera au pavillon 2 sur le stand de Benoît, hein, l'artisan. Vous êtes également allé du côté de la ferme pédagogique à la rencontre des enfants.
Oui, et d'ailleurs c'est le jeune Louis, c'est un peu le guide de la ferme pédagogique. Je l'ai croisé là-bas et c'est lui qui va vous en parler.
À la ferme pédagogique, c'est bien parce qu'on peut caresser les animaux. Donc les animaux peuvent venir, on est vraiment libre avec les animaux. Les animaux sont juste à côté de nous, on peut les caresser et tout ça. Y a plein d'animaux, des vaches, des lamas... des alpagas, des poules, des canards, des oies, des chèvres.
Merci Thibaut de nous avoir fait vivre ce salon de l'intérieur. Et moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours, même heure. Et d'ici là, venez nombreux au salon. On vous attend sur le stand Occitanie au Hall 1. Je vous laisse entre les mains de Jacques Pessy pour les clés d'une vie avec comme invité Dany Larry.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.